Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 17 mars 2012. Nos programmes pour cet après-midi à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec John O'Dead et à 17h FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici l'hommage à Moebius que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
C'est un auteur fondamental, en fait, absolument central dans la bande dessinée du XXe siècle et du début du XXIe. C'est l'un des plus grands auteurs à avoir réussi à faire accéder la BD dans l'univers adulte réaliste. C'était un maître de la science-fiction. C'était un des premiers grands auteurs de l'avant-garde française qui a influencé tout le monde. Enfin, il n'y a pas un auteur de la nouvelle génération qui se recommande pas de lui. Il est tout à fait central et exceptionnel. Il y a 2 ans, il avait fait une tournée au Japon où il était reçu comme une espèce de rockstar. Aux États-Unis, il a eu plusieurs fois les Eisner Awards. Et il était considéré comme l'un des plus grands auteurs européens de tous les temps. Oui, on vient de perdre un auteur considérable, considérable.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Peach et la participation exceptionnelle de JB.
La semaine dernière, quand on a commencé l'émission, on ne s'attendait pas en fait à ce coup de tonnerre qu'on a eu en plein milieu. Il y a d'abord eu l'incrédulité, à vrai dire. Thomas ne voyait pas quand même ce que je recevais de mon côté. Et après, ben, il a fallu voir, vérifier d'abord si effectivement cette nouvelle était vraie. Oui, on peut le dire maintenant, Moebius est humain. Donc Moebius est mortel. Est mortel dans le sens de, bah, il nous a quittés samedi dernier. Didier Passamonique nous a fait l'amitié de non seulement bien vouloir me confirmer la nouvelle, mais intervenir à l'antenne pour donner un témoignage. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, sa voix c'est un petit peu cassé, c'était sensible quand même. Mais d'un autre côté, on s'est dit, d'accord, on a eu l'émotion la semaine dernière, et cette semaine, on va peut-être pas jouer les pleureuses, finalement. On s'est dit, on va lui rendre un hommage, mais en tant qu'artiste. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est un auteur français qui a laissé une marque indélébile sur la bande dessinée. Il fait vraiment partie définitivement des plus grands. Et de notre côté, on s'est rendu compte indirectement que nos proches connaissaient pas si bien que ça le nom de Moebius, alors qu'il y a d'autres personnes à travers le monde. Il est universellement connu, et ceux qui connaissaient son travail, on n'a pas trouvé un seul qui ait dit bah non, j'aimais pas ce qu'il faisait. Donc on s'est dit on va quand même comme ça en reparler et dire un peu qui était Jean Giraud, comment ça se fait que ben il soit universellement connu, et justement toute son influence qu'il y avait réellement derrière. Moi, j'aimerais peut-être dire qu'il était vraiment à la croisée de deux mondes. Vraiment, à la croisée de trois mondes plus exactement. Non seulement la bande dessinée traditionnelle franco-belge, puisqu'il a créé quand même le personnage de Blueberry, qui est vraiment, c'est la bande dessinée classique hein, par excellence, hein, c'est du western pur et dur. Et d'un autre côté, ben, il a été à la croisée des comics. Il a dessiné un surfeur d'argent avec un scénario quand même de du grand scénariste hein, de merde
ah,
Stanley voilà Stanley, je vais y arriver ouais. Et quand il dessine le surfeur d'argent, il est capable de déclencher une bagarre dans un sous-marin nucléaire. Ça c'est dans un film. Et on dit que ce petit clin d'œil aurait été scénarisé par Quentin Tarantino. Donc c'est dire vraiment l'influence qu'il a. Et d'un autre côté,
ah non mais il a été scénarisé par Tarantino.
Mais c'est pas lui qui l'aurait écrit les dialogues.
Avec toutes les allusions au surfeur d'argent, qui c'est qui est le meilleur dessinateur du surfeur d'argent. Les allusions vraiment oui très très précises, c'est vraiment oui le film de sous-marin en question, donc c'est le film avec Denzel Washington et Gene Hackman réalisé par Tony Scott
USS Alabama
voilà
exactement. Et d'un autre côté il y a vraiment eu une influence aussi dans le milieu du manga. Il s'est installé pendant une courte période hein, à Tokyo en 85. Il était admirateur par exemple des travaux de Miyazaki. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Miyazaki lui a vraiment été baigné a découvert Moebius et en a été énormément inspiré. C'est flagrant en fait quand on s'en aperçoit après coup quand on revoit Nausicaa de la Vallée du Vent, hein, le premier film en indépendant de Miyazaki avant qu'il fonde les studios Ghibli. Il y a eu une exposition à Paris au Musée de la Monnaie commune hein, entre Miyazaki et Moebius. On voyait vraiment les influences communes qu'ils avaient.
Ce qu'il y a de très drôle aussi, c'est que il faut savoir le prénom de la fille de Jean Giraud.
Exactement.
Qui s'appelle Nausicaa.
Voilà. Donc à partir de là, ben voilà, on sait, il avait vraiment une boucle qui était bouclée. Ce qui est peut-être en rapport finalement avec son pseudonyme qu'il a choisi, qui en fait est celui du nom d'un mathématicien allemand. Tout ça, on va en parler. Vous allez voir, ce sera l'émission d'aujourd'hui. Une émission comme ça qu'on n'a pas vraiment écrite ni réellement préparée. Mais on voulait faire...
Quand même hein, pas pour toi.
Ah merde. Voilà, on voulait pas la faire d'une manière pesante, loin de là. L'idée, c'était vraiment de la faire, de communiquer un petit peu, je veux dire, vraiment le plaisir qu'il nous a laissé de tous côtés. Moebius, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs influences relativement tôt. Hein. Il n'a pas vraiment suivi l'école entre guillemets. Mais d'un autre côté, il a tenté de passer son bac. Je ne sais pas s'il l'a eu d'ailleurs. Ensuite, il est rentré à l'école des arts appliqués. Il a eu comme copain de classe un certain Mézières. Donc, quand même, ils en étaient relativement proches. Et ensuite, ben, il a fait de la bande dessinée pour enfants. Il est relativement jeune, hein, il a 16 ans quand il a commencé par ça. Donc, il fait quelque chose de relativement léger. Il rencontre Jigé, qui à l'époque, ben voilà quoi, il avait Jigé avait déjà fait Les Belles Histoires de l'Oncle Paul. Il avait fait énormément de choses dans Spirou, la Patrouille des Castors et tout ça. Donc
déjà installé, oui.
Déjà bien installé. Jigé lui dit, ben écoute, t'as 20 ans, t'es jeune, moi je te propose de m'aider dans le dessin d'un Jerry Spring, premier western, qu'il a fait. Et donc, ben, Moebius a participé à ce dessin. C'était une première expérience. À 25 ans, à force de cachetonner, il s'est lié d'amitié avec un certain Jean-Michel Charlier. Alors Charlier, avant de devenir le documentariste et le journaliste de télévision qui avait fait des grands dossiers dans les années 70 et les années 80, il avait commencé comme dessinateur dans Spirou en 1944. Il a créé Bug Danny avec Ubinon. Il a été scénariste sur les histoires de l'oncle Paul. Il a créé, lors du lancement de Pilote en 58, Les Chevaliers du Ciel. Encore une histoire de western, je veux dire, mais rien cette fois-ci, ouais. Hein, mais encore une fois une histoire de pilote. C'est pas pour rien, parce que Jean-Michel Charlier a été pilote d'avion, hein, pour la Sabena, il avait été pilote d'essai. Et il lui dit, écoute, j'ai envie de faire un western un petit peu adulte, est-ce que ça dirait de nous rejoindre donc dans Pilote. On est en 1963. Et à l'époque, le western, c'était un western relativement classique, hein, l'américaine, etc. Mais il commence à poindre une révolution du genre en Italie. Faut dire que Moebius n'est pas complètement étranger aux grands espaces, puisque en fait sa mère s'était remariée et était partie au Mexique, et il avait pas terminé en fait ses études, et il a passé 9 mois au Mexique où il a fait une expérience initiatique assez particulière. On reviendra peut-être beaucoup plus tard après, mais donc il a déjà été touché par les grands espaces américains et tout ça. Il avait déjà un talent graphique absolument incroyable, et il a dit ok, un scénariste d'exception, ben ça va être un western d'exception. Et pas qu'un peu finalement, parce que Blueberry, c'est un personnage qui fume, qui boit, qui crache, qui hésite pas à tromper, qui récolte des femmes. Rien à voir avec justement les autres westerns qui existaient juste là, hein, ceux de son maître JG, Jerry Spring, Lucky Luke et tout ça à côté. On en est des milliers et des milliers et des milliers d'années-lumière. On est vers un western beaucoup plus roots. Et pendant ce temps-là, un certain Ennio Morricone commençait à signer des partitions pour un Sergio Leone. Ça date de quand, les premiers westerns modernes, justement, de ce côté-là
Mais c'est les Morricone, c'était pour une poignée de dollars dans les années 60.
Ouais, milieu des années 60, on va dire, hein.
Donc à peu près contemporain finalement. Il y a vraiment une révolution de ce côté-là qui passe aussi par la bande dessinée indirectement.
L'époque de la nouvelle vague aussi.
Exactement, qui va lui aussi beaucoup influencer Moebius. Mais à l'époque, il ne s'appelle que Jean Giraud. Quoique si, Moebius, à cette époque-là, en 65, on a déjà commencé à voir cette signature. Mais c'est une signature qui apparaît dans Harakiri, journal satirique dans lequel il signe quelques petites histoires courtes, hein, de bande dessinée, un petit peu insignifiantes. Ça a duré un an, je crois qu'il va faire une quarantaine de planches en tout. Mais sans plus. Et puis après, cette signature, il va se la garder sous le côté. À côté, il signe Gir, hein, diminutif de son nom, Jean Giraud. Il va continuer sur les aventures de Mike Steve Donovan, accompagné de Redneck et de cette outre avinée à whisky, je vais dire plutôt, hein, de Jim McClure. Bref, les aventures de Blueberry. On apprendra bien après qu'en fait, c'est un lieutenant de l'armée du Nord, mais qu'apparemment il venait du Sud, et qu'il a déserté en pleine guerre de sécession. Et Blueberry, il est envoyé au Fort Navarro dans l'Ouest américain. Il a eu des exceptionnels états de service, mais il est considéré comme trop turbulent et tout ça. Bref, bagarreur, buveur, tricheur, indiscipliné. L'individu est quelque chose qui n'a rien à voir avec les westerns que l'on avait jusque-là.
Alors,
c'est une série quand même qui l'a commencé en 63.
Ouais, ouais.
Et qui l'a accompagné toute sa vie. C'est-à-dire que, il y a encore quelques années, il travaillait encore sur Blueberry 1900, qui est un projet, on en parlera un petit peu plus tard. Il m'en a déjà parlé en 95, donc ça faisait un bail, hein, quand même, que ça lui trottait. Tout en continuant les aventures de Mr. Blueberry, de Lieutenant Blueberry, Jeunesse Blueberry, tout ça. Qui est donc son côté mainstream.
Ouais, ouais, moi je me demande toujours qui a influencé l'autre, ou alors s'il y a eu une espèce d'idée qui a germé comme ça de part et d'autre, hein, c'est-à-dire de.
Un Gelsta ?
D'un côté et de l'autre des Alpes, à savoir ici en France, quoi, un espèce de renouveau du western, une espèce d'adultisation du western dans la bande dessinée, et de l'autre côté des Alpes, enfin bon, c'était surtout tourné en Espagne, les fameux western spaghetti, hein, avec Léon, mais il y avait pas que Léon, hein, il y avait bien d'autres spécialistes, on va dire, qui se sont révélés assez forts dans ce domaine-là et qui ont renouvelé le genre, hein, c'est-à-dire qu'ils l'ont un petit peu transformé, qu'ils l'ont ajusté à leur sauce, et qui surtout ont décidé de le rendre un petit peu plus adulte et un petit peu plus mature par rapport aux westerns qu'on avait, et qui étaient les westerns américains des années 40, 50 et voire même dans les années 60, qui étaient tous faits sur le même moule, quoi, hein, c'était du Hollywood, et il y avait toujours cette même façon d'écrire des histoires. la même façon, une même façon de les retranscrire, d'utiliser de la métaphore, de glisser quelques petits messages cachés pour les plus intéressants. Et c'était surtout parce que bien il y avait toute une école qui avait été instillée par de très très grands maîtres, quoi. John Ford, le plus connu,
Sam Peckinpah.
Peckinpah, c'est quand même
Peckinpah, après, c'est autre chose, c'est
après, dans les années 60,
il y a eu sa patte après. Oui, c'était Howard Hawks aussi,
Howard Hawks, voilà, enfin bon,
Raoul Walsh,
et bon, après les second couteau, les Bud Bottiger, les William Wellman, qui ont touché à d'autres genres, hein, mais qui ont fait également du western, mais qui ont posé leur patte personnelle sur le western, qui ont essayé de changer un petit peu les choses. Enfin bon, bah ils avaient quand même des patrons qui étaient un petit peu, on va dire, traditionnalistes, hein. Et c'est pour cela peut-être, hein, que eh bien le western spaghetti a eu plus de succès, a marqué un renouveau du genre, hein. C'est parce que ben il était plus adulte, plus mature, et que le monde avait évolué.
Et puis donc, à l'époque, des vieux routiers du western, Raoul Walsh témoignait que quand il finissait un tournage un samedi, le lundi matin, il avait déjà le script du prochain film qu'il attendait sous son Porsche, et ça, même si c'était des bons films, il tournait au kilomètre. C'était des vieux routiers, des faiseurs, des gens qui se pointaient à l'heure, des professionnels. Alors que Léon, il a pas fait beaucoup de films dans sa... Bon, on parle de Léon pour le western spaghetti, il y en a eu d'autres, il y a eu Corbucci, il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que là, le Wesson, en tout cas, peut-être qu'il était, je sais pas si c'est le mot, plus adulte, mais en tout cas plus irrévérencieux, plus de second degré, plus de pattes identifiables dans chaque plan est léonien à fond, et tu voyais qu'il y avait une autre approche, quoi, voilà.
Chose qu'on remarque quand même dans le trait de Jean Giraud, c'est qu'il va pas hésiter à travailler plusieurs techniques, à vraiment faire évoluer son dessin. C'est-à-dire, il va utiliser de la plume, de l'encre. Si vous regardez la mine de l'Indien, si je me souviens bien, on a des rochers qui sont faits à l'encre, au pinceau, et qui sont lourds. On sent vraiment la chaleur qui nous écrase et tout ça. D'un autre côté, il va commencer à faire du style aérien, à travailler sur du rotring. Mais ce n'est pas lui qui fait le scénario encore, hein, ça reste Jean-Michel Charlier qui fait ses histoires avec toujours à peu près des ficelles qui lui sont propres. D'ailleurs, à Charlier, par exemple, on trouve vraiment le thème de l'individu seul face à une armada. Il doit montrer que en fait il représente plusieurs personnes. Ça c'est quelque chose qui, petite ficelle, hein, qui va reprendre plus d'une fois d'ailleurs dans Blueberry. Un personnage d'ailleurs qui est vraiment, c'est la bande dessinée classique mainstream, même si le scénario est un peu plus adulte, mais c'est quelque chose qui restera la signature de Jean Giraud, c'est-à-dire la signature classique pendant l'ensemble de sa carrière, et sur lequel il va travailler longtemps. D'un autre côté, vas-y.
Ce qu'il y a de marrant, j'ai découvert Blueberry il y a pas si longtemps en fait, et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit bon, il faut le lire parce que c'est du classique et comme ça j'aurais lu. Et puis je me suis dit bon, allez, encore d'histoire de cowboy, on a vu tellement des westerns et tout. Et puis en fait, tu lis, tu n'as pas l'impression que c'est totalement révolutionnaire ni extraordinaire au niveau du scénario. Et il faut dire aussi, comme c'est de la BD classique, le dessin, même s'il est correct et tout, c'est quand même du dessin professionnel et tout. Mais bon, c'est pas, il y a pas de quoi dire oh là là, qu'est-ce que. Mais finalement, en fait, tu te laisses avoir. Tu te laisses embarquer parce que
dans l'histoire.
Ouais, t'es embarqué par l'histoire et puis Giraud avait une manière de dessiner, tu sentais le alors qu'il y a pas du tout, il dessine pas vraiment de la poussière et tout, mais il arrive à te faire sentir quand il y a un personnage qui est perdu dans le désert et qu'il a soif ou qu'il est tout crade et qu'il a besoin de prendre un bain ou que tu vois la poursuite harassante quand il est poursuivi par des Indiens ou par des crapules. Et en fait, tu te laisses avoir quand même. Et alors, quand tu le fermes, tu dis, c'est pas extraordinaire, mais tu as l'impression d'avoir passé un bon moment, et t'as pas l'impression d'avoir vu ça ailleurs. Et je comprends pas comment ils ont fait, mais c'est comme ça que ça, la série a tellement perduré, parce que c'est très bien en fait.
Mais il y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il a aussi travaillé, il a fait une histoire. Au fur et à mesure, on découvre l'histoire de Blueberry. Dans les années 70, il va lancer la jeunesse de Blueberry, qui est pas dessinée d'ailleurs par Jean Giraud, hein, mais c'est là où on apprend justement d'où vient le nom de Blueberry. Vasidus.
Ouais.
Moi aussi, je me souviens exactement de la même scène, de la plage finale du premier.
On se souvient de cette scène où.
Bon, c'est marrant, mais sur France Inter, ils s'en souviennent pas.
Bah, tant pis, hein.
Non, clin d'œil amical.
Ouais. C'est simple, hein. C'est un mec qui vient du sud. Bon.
Et qui vient d'une famille aisée de planteurs.
Voilà, c'est ça. Hein. C'est un sudiste et il se retrouve embringué dans le conflit, hein, qui oppose les sudistes aux nordistes. Et à un moment, il va se faire capturer par des soldats nordistes. Et bon, bah, il a réussi à dissimuler son identité de sudiste. Et quand le lieutenant de la section qui l'a capturé lui demande comment il s'appelle, lui il est encore couché par terre. Et puis il lève juste la tête comme ça et il voit un petit buisson avec quelques myrtilles comme ça. Il dit je m'appelle Blueberry. Et voilà, c'est comme ça que vient le nom de Blueberry. C'est comme ça que en fait.
Je crois qu'il était déjà à cheval.
Non, il est encore couché quand bon, on vérifiera quoi. Mais enfin,
on prend note, on prend date.
Voilà, c'est une invitation à la lecture. Hein, vous avez compris.
Tout à fait.
Et d'un autre côté, justement, Jean Giraud était vraiment attaché à ce personnage. Il a travaillé d'ailleurs sur plusieurs formes, puisqu'il a voulu, quand je l'ai rencontré en 95, il parlait d'en faire un Blueberry en 1900, voire aller jusqu'à 1920 et le faire rencontrer en fait ce qui va devenir le FBI, ce qui ferait un Blueberry assez vieux, hein, mais, ouais. Mais il me disait, mais moi j'ai envie de faire un Blueberry centenaire pour voir ce qui va devenir, c'est-à-dire vraiment à la croisée de l'Amérique qui a été des grandes légendes vers l'Amérique moderne. Et donc, ben, le projet Blueberry 1900, qu'il était en train de travailler, si je me souviens bien, avec Book, je suis pas sûr. Ben ça, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Mais justement, quand les bandits passent des chevaux aux chevaux à essence. Et
de toute façon, c'est pas possible de faire un Blueberry vieillissant, puisque tu nous as apporté un album qui s'appelle Mister Blueberry. Et à la fin, il se fait descendre.
Ouais. Mais
non,
bon.
Faux.
Ah, si, il se fait descendre.
Alors c'est la série principale, Mr. Blueberry. Ce bouquin est sorti en 95. Oui, mais il est blessé. Et après,
et il se fait descendre.
Voilà. Mais en fait, il nous avait dit non, mais il y a la suite, je bosse dessus, etc. Et c'était après la mort de Charlie. C'est le premier bouquin qu'il avait sorti.
Charlie est mort
en
90,
pardon. Ouais. Et ça, c'est un bouquin qui était sorti en 95, sur lequel il disait bah non, on va continuer, etc. J'ai envie d'écrire. Cette fois-ci, il se mettait au scénario, hein.
Comme quoi, un dessinateur qui reprend une série qu'il avait co-créée avec un scénariste, ça peut aussi donner de bons résultats. Albert Uderzo, si tu nous écoutes.
Ça, c'est fin. Et d'un autre côté, il a fait Marshall Blueberry, justement, c'est à ce moment-là, hein, que Charlie est mort, mais il a continué. Là aussi, c'était pas lui qui l'avait réellement dessiné. L'idée était un peu de passer la main, que ça vive un peu à côté, etc. Mais il y avait un petit peu ce personnage, et puis ils se sont dit c'est surtout des étendues désertiques et tout, on a peut-être manqué quelque chose. Et ce quelque chose, il va le retravailler avec Jim Cutlass. Jim Cutlass, c'est toujours le même tandem, c'est-à-dire Charlie au scénario, Jean Giraud au dessin. On est en 76, Jean Giraud commence à être déjà beaucoup plus connu sous le nom de Moebius. Mais voilà, ils continuent à travailler sur Blueberry qui marche très bien, mais ils ont envie de créer donc ce personnage qui est un petit peu à part. Jim Cutlass, c'est au départ une histoire complète qui va devenir une série au bout de 10 ans d'ailleurs, et qui raconte en fait l'histoire, une histoire qui se passe dans les bayous, dans la Mississippi, dans la Nouvelle-Orléans, où on est entre le Ku Klux Klan et des chasseurs de blancs. En même temps, il y a des histoires, je veux dire, qui sont proches du chamanisme et tout ça, qui commencent à arriver. Bref, on est dans une ambiance relativement différente. Série qui l'a continué d'ailleurs assez longtemps, je ne sais plus jusqu'où il est allé. Bref, là aussi, un autre western moderne dans lequel il va vers quelque chose un petit peu différent des seulement des gentils, des méchants, de la cavalerie et des indiens. Le Supplément Week-end numéro 309 sur Radio FMR 89.1 MHz. C'est une rétrospective sur Moebius et sur l'ensemble de son œuvre. Moebius, pas encore, on en était encore à Jean Giraud et on en était à la fin des années 60.
Ouais, alors il faut quand même rappeler que Blueberry à l'époque, ça sortait d'un pilote,
ouais.
Mais c'était des histoires à suivre. Alors là, c'est une preuve de plus parce que maintenant vous, vous êtes un petit peu plus jeune et tout, vous avez pas connu cette période et tout, de ces histoires à suivre et tout, vous achetiez les albums complets, allez, on se le fait d'une traite et tout, parce que quand tu commences à lire, tu peux plus t'arrêter. Mais bon, à l'époque, c'était coupé en plusieurs parties. Et là aussi, il faut admirer quand même le découpage, surtout au niveau scénaristique, parce que chaque semaine, t'avais 4 pages, 6 pages, 8 pages, et clac, ça s'arrêtait, tu disais, merde, il va falloir que j'attende la prochaine et tout, adulte et tout. Mais c'était tellement bien construit que il n'y avait, t'arrivais pas à la fin d'une histoire, enfin à la
c'était
fin d'un truc.
C'était toutes les semaines, c'est ça?
Oui, le pilote, ouais, c'était toutes les semaines.
Et tous les jeudis.
Ouais.
Oui, voilà.
Toutes les semaines. C'est comme le journal de Tintin. À l'époque, c'était des hebdos.
C'est devenu mensuel en 72, 74, on va en parler. Après.
Oui, mais ça, c'est dû un petit peu à la crise, on va dire. Et là, justement, quoi, il y avait vraiment un travail qui était énorme de la part du scénariste Charlier, pour que ces histoires soient des histoires à suivre. De ce côté-là, quoi, aussi, c'était vraiment une super réussite. Et pour en revenir un petit peu au dessin, t'es quand même plus spécialiste que moi. La grosse différence qu'il y a eu quand Blueberry est apparu, quand ce western est apparu, par rapport justement aux anciens westerns de bande dessinée de Jerry Spring et tout ça, c'est justement la qualité du dessin. Auparavant, c'était vraiment
incroyablement réaliste.
C'était auparavant, c'était la fameuse ligne claire, franco-belge, pur et dur. Alors que à partir du moment où Blueberry arrive, on a des personnages qui ont des gueules qui pourraient être des photos pratiquement, tellement c'est réaliste. On a des paysages qui sont très fouillés, on a du dessin tramé, très fin.
On voit des visages burinés, des chevaux qui sont suants, des bottes qui sont crottées, ainsi que le bas des jeans.
Oui, et puis comme pour dire que c'est crotté, c'est pas juste une petite tâche, c'est surtout un jeu de textures, de hachures.
Voilà,
dire,
c'est vraiment, ça. Hein,
c'est tu vis, c'est comme du la caméra embarquée quasiment.
Oui, c'est ça, c'est ça.
On est au début des années 70. Jean Giraud a envie de commencer quelque chose d'un petit peu différent. Et à l'époque, et ben voilà, c'est mai 68 est passé. On a beaucoup d'évolutions sur pas mal de plans de vue. Il y a les grands mets de la science-fiction, Frank Herbert qui fait Dune. On a donc la série sur Mars, le nom A et tout ça. Donc toute la culture classique de la science-fiction qui est en plein âge d'or hein, quand même aux États-Unis.
Oui, et en France également hein, parce que il y avait carrément des maisons d'édition qui étaient spécialisées hein, dans le fantastique, dans la science-fiction et qui justement traduisaient et éditaient en français quoi tous ces auteurs, Vonnegut, toute la bande quoi.
Mais à ce moment-là, ben voilà, ça pilote reste un peu de la bande dessinée. Classique, c'est vrai, il y a un petit peu de bande dessinée un petit peu plus un petit peu modernisée, mais on reste dans la bande dessinée purement classique. Et René Goscinny commence à être dépassé par une génération d'auteurs qui est montante et qui commence à dire ouais ben nous on aimerait faire de l'humour adulte, on aimerait faire du cul, on aimerait faire ça, on aimerait faire ça. On n'oublie pas que la première affiche de Jean Rollin est dessinée par Druyé. Alexis et Claire Bretechet se barrent et fondent en 72 l'Écho des Savanes. En 74 est monté Fluide Glacial par Gottlieb. Et en 75.
Et Mandrika,
oui. J'y vais un peu.
Ils étaient trois, en fait. Fluide Glacial, ils sont trois. Et Gottlieb, Mandrika, le troisième, je m'en souviens jamais, quoi. Mais
Alexis.
Peut-être.
Oui, c'est Alexis, oui, qui est toujours directeur de conscience dans la publication. C'est la mention qui reste, hein, puisque il est décédé au début des années 80, si je me souviens bien. Bref, René Goscinny est dépassé, mais non, il tient bon la barque et ça va rester dans la version classique. Donc, eh ben, Moebius se barre avec
Druyé et ils sont accompagnés également de Farkas et de Jean-Pierre Dionnet. Pour monter justement le magazine Metal Hurlant, qui dans les premiers numéros, c'était une signature qu'il voulait, c'était que il n'y avait pas de logo. C'est-à-dire que le logo de Metal Hurlant, les lettres changeaient à chaque fois, et puis à un moment donné, au bout de certains numéros, ils se sont dit, bah, il faudrait quand même un logo, et puis bon, c'est Étienne Robial qui a fait lui-même le logo Metal Hurlant.
Qui avait déjà signé celui de Futuropolis,
oui, voilà.
Qui était la première librairie spécialisée BD à Paris. Petite interruption musicale, parce qu'il est 12h30. Et justement, puisqu'on parlait de Metal Hurlant, eh ben, on va vous passer un extrait de la bande-son du film qui a été une révolution monstrueuse à l'époque, à la fois parce que c'était un omnibus, mais aussi parce que la prog musicale avait été faite par des groupes de rap et de rap, je déconne.
De rap.
De
allez.
Rock and roll.
Hard rock, ce sera coupé au montage.
Pur et dur. Et on va peut-être commencer par Black Sabbath. The Mob Rules. C'est la foule qui hurle, si je me souviens bien, c'est lors du procès.
Take a bite from the wall.
s'est fait avoir.
Ah ouais, on s'est fait avoir. Mais enfin bon, c'est
fait refiler une copie.
Ouais, ouais, c'est une copie. Hein. C'est pas le Black Sabbath du tout. Hein. Et bon, je suis pas assez spécialiste en hard rock pour vous dire, mais il y a un petit soupçon de Iron Maiden que ça m'étonnerait pas. Mais enfin, je peux me tromper quand même. Hein. Mais enfin bon, on dirait du Iron Maiden quand même. Mais c'est le morceau The Mobile. Hein. Ça y a pas de problème quoi.
À propos donc de Metal Hurlant, on est vraiment dans l'arrivée des comics. Et si je me souviens bien, il y a des auteurs américains qui participent dès le premier ou le deuxième numéro. Je ne sais plus. Il y a eu plusieurs.
De toute façon, il y a la filiation naturelle avec toute l'équipe de Mad. Hein.
Ça, c'était normal puisqu'ils sont allés.
Ils sont inspirés en plus, ouais. Quoi. Ils sont en moitié inspirés. Beaucoup de dessinateurs ont été inspirés. Enfin, essayer d'instiller dans le paysage BD-file français, eh bien la même vision qu'avaient les ricains de Mad, de National Lampoon aussi, quoi. Et donc ça nous donnait des petits trucs sympas. Et il y avait également des échanges comme ça qui sont faits. Des traversées de l'Atlantique de part et d'autre, quoi. Et c'est également une façon de faire découvrir au public européen une autre culture, une culture qui avait été, ça on avait déjà parlé précédemment dans quelques émissions, une culture BD qui était très mal vue, très 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 mal vue, en particulier les comics en France d'ailleurs.
Ça corrompt la jeunesse.
Ah oui, non mais bon.
Ah bah on est encore dans la loi de 49. Faut pas oublier qu'on est en 70.
48.
48 pardon. Et la revue Fantasque a été censurée. Hein,
ouais,
plus d'une fois. Les quatre fantastiques n'arrivent pas à être publiés en France malgré les efforts de l'éditeur Lug. Donc ça reste encore vu comme une publication enfantine. .. Et eux, ils arrivent, ils le mettent. Dans le titre, dans Metal Hurlant, il y a marqué réservé aux adultes.
Et c'est à cette occasion que Moebius donc sort ses premières bandes dessinées avec ce pseudo Moebius de science-fiction, avec notamment la déviation.
Il ressuscite son pseudo Moebius. Alors, c'est vrai que là, par contre, il va sec.
Alors le réservé aux adultes, c'était pour une raison très simple, c'est que en 1973, Monsieur Pompidou nous sort une loi qui va catégoriser les films qui sont des films pour adultes. Et le fameux X, le film X, vient de cette loi de 73. Et donc de ce fait, ils ont également appliqué cette loi aux publications BD, aux publications de livres. Où il fallait justement marquer cette mention, parce que ce sont par rapport à un film où t'es obligé de rentrer dans une salle, donc tu passes par un contrôle, et puis là on peut très bien contrôler ton âge, hein, à l'époque il fallait montrer sa carte d'identité pour certains films, parce que t'avais plusieurs catégories à 100, t'avais moins de 18 ans, moins de 15 ans, moins de 13 ans, donc il fallait montrer sa carte d'identité quand t'allais au cinéma, quoi, et que on n'était pas sûr de ton âge. Et pour les publications qui sortaient en kiosque, il fallait qu'il y ait des endroits un petit peu spéciaux, très hauts, pour que les gosses ne puissent pas les atteindre, hein, c'est toujours le cas d'ailleurs, pas partout, quoi. Et on a obligé justement les éditeurs à sortir cette mention qui faisait bien le distinguo entre les éditions tout public et les éditions réservées aux adultes.
Là-dedans, il va faire venir pas mal de gens. C'est une revue qui va être relativement vite publiée aux États-Unis sous le nom de Heavy Metal. Et qui va être
un carton.
Qui non seulement va être un carton, mais va surtout va taper dans l'œil, tout simplement d'Hollywood. Mais pas directement, en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors, on a déjà parlé de la naissance de Metal Hurlant par le bouquin de Dionné, si je me souviens bien.
C'est pas Dionné, c'est une suite d'interventions des principaux acteurs qui ont fondé Metal Hurlant. Ça s'appelle Metal Hurlant, la machine à rêver, et dont je n'ai pas les références sous les yeux, mais on vous retrouvera ça au cours de l'émission en allant chercher sur Internet.
Il y a aussi le journal de Serge Clair que l'on a chroniqué, si je me souviens bien, il y a 2 ans à peu près. Bouquin assez ardu, parce que c'est du noir et blanc, assez rough. Assez anguleux dans tous les sens, mais sur lequel on apprend énormément sur un futur membre du jury de La Nouvelle Star et plein d'autres.
Oui, voilà, Philippe Manœuvre qui a rejoint l'aventure Metal Hurlant, pas au début, mais en cours de route.
Mais qui travaillait déjà pour Rock and Folk.
Oui, voilà, tout
oui,
à fait.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais peut-être vaut-il mieux, dans ce cas-là, commencer à parler de ce qu'ils vont faire dans le monde du cinéma.
Alors, on entame la partie cinéma, là ?
Ah, on est en 75, Thomas. Et en 75, il y a une rencontre avec un producteur et avec un scénariste.
Un scénariste de l'autre côté de l'Atlantique, qui s'appelle Alejandro Jodorowsky. Qui rencontre Jean Giraud Moebius aux États-Unis et qui lui dit je suis en train de lancer la pré-production de l'adaptation au cinéma d'un livre de science-fiction de Frank Herbert. Ça s'appelle Dune et j'aimerais que tu travailles dessus sur le design. Alors je sais pas et tout. Alors il lui dit direct, bon, si tu dis non, je demande à Drouillet. Bon, OK, c'est bon. J'arrive. Et donc, à cette époque, est montée une équipe de choc, donc composée de Dan O'Bannon, scénariste, Chris Foss et un monsieur qui s'appelle Giger, qui est un Suisse.
un Suisse allemandique, donc il ne parle ni anglais ni français, donc il faut se démerder avec lui. Dan O'Bannon, on l'a déjà vu dans le milieu du cinéma puisqu'il a eu un rôle.
Bah c'était à l'époque un ami de John Carpenter puisqu'il a co-créé le film Dark Star avec Big John
dans lequel il joue.
Et ils se sont, ils s'étaient rencontrés à l'école de cinéma. Il y a eu un storyboard complet qui a été produit à cette époque-là. Il y a eu des tonnes d'artwork qui ont été créés également, mais les distributeurs refusent de financer le projet. Et finalement, en 78, un jeune réalisateur anglais qui avait fait juste un seul film avant, qui était les duellistes. Qui est féru de science-fiction lui-même et qui est aussi également illustrateur professionnel, donc il sait de quoi il parle, et qui vient du clip, donc, et qui met la main sur l'équipe de Dune.
Il vient de la pub, parce qu'à l'époque le clip ça existait pas.
Oui, voilà, il vient de la publicité et c'était ce n'est qu'en 84 justement qu'il se fait connaître, surtout pour le plus grand spot de pub justement à l'occasion du Super Bowl, qui était l'arrivée du Macintosh. Mais bon, c'était pour après. Donc effectivement, oui, il venait de la pub et pas du clip, et donc il est fait travailler toute cette équipe, donc O'Bannon, Chris Foss, Giger et donc Moebius, sur un projet de film, puisqu'il en profite puisqu'ils sont tous libres, sur un film qui s'appelle à l'époque Star Beast, et qui deviendra par la suite Alien avec donc Sigourney Weaver. Et donc il s'agit de Ridley Scott.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le travail sur le film Dune, il en a été question dans un hors-série qui avait été édité par Metal Hurlant, qui, à ce qui paraît, on en parle régulièrement. Peut-être un jour les planches vont sortir, puisque c'est chez Camera One, la société du producteur Michel Sédoux, puisque c'était lui qui avait tenté de porter le projet, et sur lequel ça s'est joué, je crois, juste sur un problème de distribution aux États-Unis.
Oui, il voulait pas donner le parc de salles adéquat.
Voilà, sachant que donc le storyboard complet de Moebius y est, c'est, je crois que c'est son premier travail de storyboarding, et il est absolument incroyable. Déjà, pour vous donner une idée, il était question à l'époque, dans le rôle de l'empereur de l'humanité, d'un certain Salvador Dali, qui avait exigé en cachet d'être l'acteur le mieux payé du cinéma.
À l'époque, Jodorowsky n'était pas n'importe qui non plus, puisqu'il était déjà réalisateur lui-même. Il avait déjà fait La Montagne Sacrée, il avait fait El Topo. El Topo, c'est un comics. c'était pas des nouveaux venus. Moebius, faut pas penser qu'il est allé aux Los Angeles. Il a croisé Jodorowsky dans un bureau. Non, avant, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, il avait fait déjà des bandes dessinées qui étaient vraiment très introspectives, où il avait pas mal expérimenté. Il y avait la Déviation. Est-ce que c'était à cette époque-là, ça c'est Xavier qui peut nous dire ça, en 75, est-ce qu'il avait déjà fait Le Garage Hermétique ou d'autres bandes dessinées?
Le Garage Hermétique, si je me souviens, c'est un petit peu non, c'est contemporain en fait.
Donc il a fait à la même
époque.
Il a
fait Arzak surtout, voilà, ça on en reparlera, parce que Arzak a vraiment influencé énormément de gens, alors que c'est que 48 pages qu'il a fait en je sais pas, à raison de, je crois que c'est 4 ou 6 pages par numéro de Metal Hurlant, mais c'est contemporain.
Donc sur Alien, le design de Moebius se retrouve surtout sur les combinaisons spatiales, puisque la bête elle-même a été conçue par Giger. Moebius s'est croulé sous les projets à l'époque, donc il n'a plus s'occuper que des suits des astronautes.
Il a aussi fait la cabine de l'ordinateur, si je me souviens bien.
Et alors c'est marrant, parce que dans les croquis qu'a fait Moebius pour la préparation du film, on voit le sosie de Tom Skerritt dans les études graphiques, à une époque où Tom Skerritt n'avait même pas été encore casté, donc pour le rôle de Dallas, bien sûr. Donc c'est vrai que ça a peut-être précipité le choix de Skerritt, avec sa moustache qui ressemblait un peu à Selleck, hein, sur certains côtés. Bon, il était un peu plus fin. Donc en 75, c'est aussi l'époque où Moebius dessine une histoire scénarisée par Dan O'Bannon. Ils ont poursuivi leur collaboration ensemble. Donc en 75, c'est un comic book de 16 pages qui s'appelle The Long Tomorrow. Une petite histoire où on retrouve, alors c'est marrant, 2 ans avant la sortie de Star Wars, le design d'un droïde impérial. Lucas ne s'est jamais caché des références qu'il avait puisées dans les comics books
J'ai vu quelques pages du storyboard de Dune, et on a 2 droïdes.
D'accord,
C'est direct. Et sur le style graphique, on a parlé justement du créateur de R2-D2, etc. Mais c'est flagrant qu'il a été plus ou moins inspiré, hein. À l'époque, faut pas oublier quand même que quand on est à Hollywood, quand on prose un projet de scénario ou des dessins, etc., les projets circulent entre les studios, hein, même s'ils sont ennemis, concurrents et tout ça. Non, ça circule, attention.
La ville développée dans une verticalité prodigieuse dans The Long Tomorrow, la profusion graphique, cette cité qui est envahie par les pubs, par les écrans, une profusion de vie se retrouvera bien sûr dans Blade Runner de Ridley Scott, toujours en 82. Moebius ne peut pas participer au film parce qu'il était très occupé en même temps sur le film d'animation de René Laloux, Les Maîtres du Temps. Donc il a quand même eu une influence certaine sur le film, sur le design de Blade Runner, mais surtout à travers The Long Tomorrow, et pas à part un apport très officiel sur le film lui-même.
Alors moi, je voudrais parler d'une anecdote complètement étrange. C'est William Gibson, qui est un auteur de SF, qui avait fait quelques nouvelles, mais à l'époque il n'avait pas encore créé le genre cyberpunk. Mais il commence à écrire Mozart en vers miroir, qui va devenir en fait justement la nouvelle séminale, la nouvelle d'origine du genre cyberpunk. Il va au cinéma, il voit le film de Ridley Scott, et il fait putain, merde, il a eu la même idée que moi. Il se retrouve quelques années après et il dit à Ridley Scott, mais d'où tu as eu toutes ces profusions? Parce que moi, je les ai vues dans un comics qui était sorti dans Metal Hurlant. Et Scott qui fait, on a lu la même chose. Voilà.
Ah, tu parles de Neuromancien. Oui, tout à fait.
L'auteur de Neuromancien tout cela, ça vient de A Long Tomorrow. Ils sont référés directement.
En 82, nous poursuivons la veine cinéma. Dans 82, c'est Tron, où Moebius est très officiellement le concept artiste du film. Il signe le concept artistique. Il travaille ensuite sur Willow, sur Abyss. Et une collaboration qui a plus fait couler de l'encre sur le cinquième élément 97 de Luc Besson. Faut savoir qu'il a quand même été officiellement fait partie de cette aventure là. Ça n'a pas empêché quand même de s'associer avec Jodorowsky pour intenter un procès à Besson pour plagiat de l'Incal. L'Incal, on y reviendra peut-être après, Xavier. Oui, effectivement, comme il a participé officiellement au film, ben voilà, ils ont été déboutés, voilà. Bien sûr, et on voit notamment sur The Long Tomorrow et sur, ben, bien sûr, sur l'Incal avant tout, les voitures volantes, la ville qui se retrouve aussi dans le film de Besson.
Stratifié, où les castes justement sont en fonction des étages, on retrouve tout ça. En fait.
Voilà, le costume près du corps, même si c'est Jean-Paul Gaultier qui le signe dans le film, c'est quand même dans des couleurs orange. Et donc l'Incal, c'est John Tifu dans l'Incal, le personnage principal, l'anti-héros, est en orange aussi, donc on voit vraiment les ramifications entre les deux. Tu parlais tout à l'heure de Miyazaki pour une influence sur l'univers du manga, de l'animé japonais. Quand on voit les planches, vraiment là je me replonge dans l'œuvre de Moebius. Je fais circuler la BD L'Incal à mes amis, mais là on voit vraiment qu'il y a tout Otomo est là-dedans. tout, voilà, le Miyazaki également s'est réclamé de Moebius, tu l'as dit tout à l'heure. Mm-hmm. Quand il a dit Nausicaa, il avait en tête l'univers de Moebius. Ils ont fait
Arzak, qui est une scène, qui est une bande dessinée contemplative sans scénario, où en fait, tu as juste un personnage qui vole avec un gigantesque oiseau. Le début, c'est le début de Nausicaa. Voilà, c'est directement pompé là-dessus. La fin du film Metal Hurlant, hein, de toute façon, il fait référence, c'est obligé, c'est normal. Les grandes scènes contemplatives où il n'y a aucune ellipse, où ce n'est que du dessin de paysage avec un personnage qui...
Avec un paysage horizontal ?
Pratiquement.
Paysage horizontal, puisque comme tu disais tout à l'heure que Moebius était parti au Mexique, et on le voit, l'influence du désert mexicain sur ces paysages très horizontaux, il n'y a pas un pet de rocher qui dépasse et tout, on dirait qu'on est dans une espèce d'antichambre de la réalité, dans un monde qui n'y a plus rien et tout, c'est vraiment l'influence du Mexique sur Moebius. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur les rapports entre Moebius et cinéma, et puis évidemment, on ne peut pas passer sous silence l'adaptation très officielle de Blueberry qui s'appelle Muraya, l'expérience interdite, par Yann Kounen, qui est quand même un ovni. Alors on peut en penser du bien ou du mal, déjà on peut juger le film sur ce qu'il est vraiment sans être l'adaptation de Blueberry. Donc voilà, Yann Kounen a fait quand même un truc un peu barré quand même. Donc il faut quand même souligner au casting que dans le rôle de Blueberry, c'est Vincent Cassel, il y a également Juliette Lewis, il y a Michael Madsen. C'est quand même du casting assez béton. Et pourquoi on en parle dans cette partie Moebius et pas du tout dans la partie Blueberry? C'est parce que, Xavier, tu disais...
Moi, je suis allé le voir et je pensais que ça allait être une adaptation. Les images qu'on avait vues avaient l'air très bien. Il y avait toute cette ambiance de western et tout ça. Les décors étaient magnifiques. Et puis au milieu
sauf que dans le dernier
tiers... La petite larme de sueur, parce que je vois que mon père commence à se faire chier et je fais putain merde. En fait, ils ont plus adapté façon Moebius. C'est un Blueberry dessiné par Moebius. C'est comme ça qu'a été.
Oui, sauf que Yann Kounen a aussi recyclé son attirance pour les expériences un peu chamaniques dans le film. Et c'est vrai que moi, je me souviens plus du serpent en 3D lumineux plutôt que de la gueule de Vincent Cassel. Je ne sais absolument plus à quoi il ressemble dans le film.
voilà. Ok, amusant. Petit break musical, toujours avec la bande originale de Metal Hurlant, donc le film Omnibus, cette fois-ci avec Nazareth. Crazy. We'll be right back. A suitable case for treatment crazy par Nazareth. Pour en revenir à Moebius, Jean-Giraud Moebius, c'était vraiment une dualité entre les deux. Ça, vous avez commencé à comprendre qu'en fait, la bande dessinée traditionnelle, la partie western et tout ça, c'est Jean-Giraud et Moebius, c'est toutes les expérimentations artistiques, SF, voire son Inside Moebius qu'il a fait entre 2005 et 2010.
Oui, ça c'est plus, c'est une introspection. Plus épuré, plus cartoon. Hein,
ça dépend, il a vraiment varié les graphismes et tout. D'ailleurs, il utilise sa double signature au bout d'un moment parce que d'un côté, il dessine d'une manière réaliste Jean-Giraud et de l'autre côté il est dans son délire, etc. Donc c'est Moebius. Moi ça me rappelle quelque chose, c'est quand j'ai déjeuné plus d'une fois avec lui, donc ça c'est peut-être un petit peu personnel et un petit peu vantard de parler de ça, mais c'est vrai que j'ai eu l'honneur de le croiser et c'était la deuxième fois que j'interviewais quelqu'un. Alors, pour vous dire comment c'était surréaliste, le libraire m'a dit: écoute, s'il te plaît, tu ne sors pas le micro. Bon, ok, soit. On déjeune, il y a Louis Bénédicte Sud Radio, il y a Guy Vidal, il y a Claude, hein, qui était le libraire en question, et Jean Giraud qui est là, on parle de Mister Blueberry, on était tous un petit peu... il y avait une ambiance pour nous, un ressenti sur la lecture qui était un peu bizarre, puisqu'en fait c'est OK Corral, règlement de compte à OK Corral, ce qui s'est passé la veille, hein, c'est ce que raconte en fait la bande dessinée.
Oui, il y a Wyatt Earp d'ailleurs dans la BD.
Ils y sont tous, ouais. Ils y sont tous, et que fait Blueberry? Il joue au poker pendant toute une nuit. Il est complètement à la ramasse, quoi, sur les événements. Et moi j'ai eu l'attaché de presse qui m'a appelé chez moi plus de 3 fois pendant la semaine. Surtout, ne l'appelez pas Moebius, appelez-le Jean Giraud. Ok, soit. Bon, Jean Giraud, etc. Comment ça se fait? Ah, oh, mais il commence à avoir un peu vieilli, à avoir la bouteille, il a plus envie forcément de jouer les redresseurs de Thor et tout ça, donc c'est vrai qu'il est un petit peu en retrait. Et là, Louis Bénédicte, quelqu'un que j'estime, qui faisait une très bonne émission sur Sud Radio à une époque, sur la bande dessinée, et qui lui dit: oui, mais Moebius, on a l'impression que, comme il est habillé en noir, et là, je vous jure, j'ai vu Jean Giraud, on est au Grand Hôtel de l'Opéra, dans le restaurant, tout d'un coup commencer à s'envoler, à flotter, assis en tailleur, et dire: oui, les tendances dentales, suite à la disparition vers d'autres plans éthérés de Jean-Michel Charlier, dont il essaie de reprendre le contact. J'ai vu son éditeur Guy Vidal essayer de le reprendre pour essayer de le remettre sur la chaise. Le serveur dont il vient de dire: non, écoutez, la salade, là, il y a des œufs, je peux pas, je suis végétarien. Il était végétarien depuis 1978, donc végétalien pur et dur, hein, c'est-à-dire pas d'œufs et tout ça. Fait waouh. D'accord, il y a un mode on off, il y a un mode Jean Giraud, il y a un mode Moebius. Et c'est vrai que ça c'était le ressenti. Donc c'est vrai que c'est ce personnage là moi que je vais garder. Il était aussi incroyablement accessible. On l'a vu plus d'une fois. Moi j'ai eu la chance quand je l'ai recroisé, j'étais avec une équipe de Sud-Coréens. On était dans un resto avec l'équipe coréenne, avec la délégation d'une entreprise, et voir rentrer, ils disent: n'est-ce pas Moebius? N'est-ce pas Jean Giraud? Ils me font comme ça. J'ai fait oui, tout à fait, c'est lui. Vous voulez que je vous le présente? Jean Giraud passe à ma hauteur, il me fait: ah, bonjour. Et je le présente, et il est resté discuter pendant une demi-heure de bande dessinée numérique. On est en 2003, la Corée du Sud est le pays à inviter à Angoulême. Il présentait en fait la bande dessinée numérique sur des téléphones en couleur à grand écran, ce qu'on appelle maintenant des tablettes. Hein. Donc ils échangent avec eux, et je sais que l'échange a continué par la suite, hein, ce que je l'ai su par d'autres biais. Donc il était accessible. On a, Thomas, une photo de Jean Giraud qui fait le con.
Oui.
À une soirée, il était toujours mais à faire l'andouille par moment, ça le prenait. Il était vraiment accessible, quoi.
Mais oui, c'était quelqu'un. Tu sentais que c'était une crème quand même. Tu faisais pas du tout son la personne qui était hors d'atteinte. Tu sentais que bon, c'était quand même pas n'importe qui. Donc tu t'allais pas le voir pour tout et n'importe quoi. Mais c'était pas quelqu'un qui allait trop fouler spontanément. Donc ça se voyait que c'était quelqu'un de bien quand même.
Excusez-moi, oui, voilà. D'un autre côté, on va peut-être parler, puisqu'il commence à se faire tard, oui, des albums en eux-mêmes, de ce qu'il a fait, et aussi des collaborations plutôt étonnantes qu'il a eues. Et on va parler de ces albums Arzak. Donc j'avais dit c'était quelque chose qui en fait n'a aucune parole. Hein. Il a fait après une histoire à dialogue hein, sur Arzak, mais c'est bien après. D'ailleurs Arzak qui est vraiment là aussi une bande dessinée qui a énormément marqué sur pas mal de gens son côté contemplatif, voire absolument nonsense. Arzak. Il y a plusieurs orthographes possibles, puisque à chaque aventure, il mettait une orthographe différente d'Arzak. Donc, on ne sait pas exactement qui c'est, etc. On voit juste cet homme sur un immense oiseau blanc majestueux qui va reprendre pour l'Incal.
Oui, en petit format, l'oiseau. C'est Dippo dans l'Incal, qui est plutôt l'animal de compagnie du héros. Plutôt, on va dire, disneyen. C'est-à-dire qu'il va faire en détachement, il va leur sortir de la mélasse quelque part aussi.
C'est le sidekick.
Voilà, le sidekick, exactement.
Voilà. D'un autre côté, il a fait aussi le garage hermétique et de l'écriture automatique, hein, pure et dure. C'est-à-dire comme ça, il partait dans un délire. Il est très influencé. Il a été dans les bistrots surréalistes et tout ça. On est dans les années 60 à Paris, donc il les a fréquentés. Il a énormément eu de relations avec Topor, justement pendant relation que s'est continuée pendant la production hein, des Maîtres du Temps. Et tout cela fait que il va faire des albums où en fait le dessin il laisse sa main se guider, partir dans les délires, pas possible, et en même temps on voit des dessins, des hachures, des précisions, des trucs qui sont absolument dantesques. Et il allait à une vitesse stupéfiante pour créer ça, c'est-à-dire vraiment pour lui c'était à la fois un exercice et à la fois un trip mystique, je ne sais pas ce qu'il devait prendre et je n'irai pas vers là mais en tout cas ça y était d'un certain niveau. Ah mais excusez-moi, je sais ce qu'il prenait. Dans le garage hermétique, il y a un vaisseau spatial qui s'appelle le Siguri. Le Siguri, c'est un état d'ivresse rituel suite à la consommation de mescal. Tiens, encore le Mexique.
Et tu es en train de parler surtout de sa phase Moebius, mais on a cité tout à l'heure l'origine du pseudo Blueberry. Moebius, est-ce que quelqu'un connaît l'origine de ce pseudo ?
Ah, je crois savoir que c'est un mathématicien.
Ouais, c'est un mathématicien.
Je me souviens d'un ruban, quand tu l'écrases, ça fait un hexagone.
Oui. Mais c'est
ça fait la fumée.
C'est non. Une des formes. Une des formes. Alors, Moebius, le pseudo de Jean Giraud, en fait, c'est la prononciation à la française, hein, O-E, hein, c'est pour prononcer O-E, mais le vrai Moebius, le mathématicien, ben ça s'écrit M-O-Tréma, en allemand, hein, O-Tréma, ça se prononce E, Moebius. Donc August Ferdinand Moebius, né en 1790, mort en 1868. Hein. Alors c'est le fils d'un professeur de danse et d'une des descendantes de Martin Luther. Déjà, on se dit bon, d'accord, ok. Alors, il fait ses études à Leipzig, c'est en Saxe, c'est-à-dire en dessous de la Prusse, hein, c'est ce qui était l'Allemagne de l'Est il n'y a pas si longtemps que ça. Et il commence à être influencé par son prof d'astronomie qui s'appelle Karl Mulvey. Et Karl Mulvey est le cerveau de l'époque, hein, le grand maître de l'époque en ce qui concerne l'astronomie et aussi un petit peu les mathématiques. Il écrit un bouquin qui devient une référence au début du 19e siècle. C'est un bouquin qui cause des relations trigonométriques de 1807 à 1809. Ensuite, il descend un petit peu dans le sud vers Göttingen. Alors, je sais pas s'il doit y avoir plusieurs Göttingen en Allemagne. Je connais un Göttingen, c'est celui qui est situé en Souabe, c'est-à-dire au sud de Stuttgart, en fait. Et là, il rencontre pas n'importe qui. Et il rencontre un autre professeur, bien sûr, un professeur d'astronomie, qui s'appelle Gauss. Et les mathématiciens courent, pas que les mathématiciens d'ailleurs, connaissent très bien cette courbe de Gauss. hein, entre autres, hein, entre autres. Et ensuite, il part à Halle. Alors Halle, là, c'est de nouveau dans le nord, c'est au nord de Hambourg, hein, on va dire quoi, globalement quoi, pour pas beaucoup préciser. Et là, bien, c'est plutôt dans la branche mathématique, hein, et son maître s'appelle Johann Pfaff. Alors très tôt, on remarque que c'est un bon chercheur, c'est-à-dire un très très bon chercheur qui va très très vite, mais c'est un mauvais enseignant. Or, à l'époque, quand on voulait poursuivre sa carrière, eh bien, il faut savoir que les études n'étaient pas gratuites. Les études étaient payantes. Les étudiants qui voulaient aller en fac et étudier sous l'ordre d'un maître comme Gauss, Mulvey ou même Möbius, eh bien, il fallait payer. Hein, et donc, c'était réservé à une certaine élite. Mais lui, il ne trouvait pas tellement d'étudiants parce que il était mauvais. C'était pas un enseignant. Alors, il a écrit pas mal de bouquins quand même. Alors, en astronomie, son premier bouquin, c'est en 1815, De Computandis Occultationibus Fixarum Per Planetas. Laissez tomber la traduction. Ensuite, en 1836, The Hauptsätze der Astronomie, c'est les principes généraux de l'astronomie. Et un peu plus tard, en 1843, The Elemente der Mechanik des Himmels, c'est-à-dire les éléments de la mécanique des cieux. En mathématiques également, alors, c'est pas tellement des livres, c'est plutôt des publications dans un journal, et dans le journal qui est la référence à l'époque, le Krell Journal, qui est le premier journal qui est entièrement dédié aux mathématiques. Et dans ce Krell Journal, eh bien, en 1827, il écrit Der Barycentrische Calcul, c'est de la géométrie analytique. En 1831, Über eine besondere Art von Umkehrung der Reihen, un type spécial de renversement sur la chaîne, où apparaît ce qui est resté dans le domaine des mathématiques comme la formule de Möbius. En 1837, c'est le Lehrbuch der Statik, hein, l'étude des systèmes de lignes dans l'espace. Et en 1858, enfin, eh bien, arrive ce fameux ruban de Möbius. Alors, tout le monde le connaît sous le nom de ruban de Möbius, alors qu'en fait, quelqu'un avant lui, à quelques années près, eh bien, avait déjà décrit ce fameux ruban, avait déjà fait certains calculs à propos de ce fameux ruban de Möbius à un monsieur qui s'appelle Listing, mais lui qui était plus dans le domaine de la topologie pure, la topologie mathématique. Il se posait vraiment des problèmes très très complexes pour l'époque. Et Möbius aussi était aussi très fort. Il a développé plusieurs bouquins en ce qui concerne la cartographie, c'est-à-dire les cartes géographiques et tout ça. Et il avait posé un problème assez simple et tout, parce qu'à l'époque, eh bien, pour les cartes, il y a des systèmes qui sont en vigueur, surtout au niveau des couleurs. On peut pas mettre plus de 3 couleurs, par exemple, sur une carte.
On peut dessiner une carte, qu'avec 3 couleurs.
Voilà, qu'avec 3 couleurs. Et lui, il instaure ce système, et il instaure cette règle, tout simplement parce qu'il pose un problème très simple. Il dit un roi a 5 fils, et le roi meurt, et donc il va devoir partager son royaume en 5 parties. Mais seulement pour que le royaume reste uni, il faut que chacune de ces parties de ce royaume va être divisée en 5, mais il faut que chaque partie puisse avoir accès aux 4 autres. Alors la question, c'est est-ce possible ou pas?
Ah, c'est pour les thèmes frontaliers, c'est ça?
Ouais. Et la réponse, c'est impossible, quoi. On peut pas, quoi. Donc c'est assez simple, quoi. Mais enfin bon, il fallait quand même poser la question déjà, hein, tout simplement, quoi. Et la faire résoudre. Voilà. Ça, c'est l'homme qui s'appelle Möbius, le vrai Möbius. Alors il faut savoir que ce ruban de Möbius, eh bien, vous le connaissez peut-être sous sa forme qui a été dessinée et qui a été d'ailleurs très travaillée par un dessinateur qui est un des maîtres en ce qui concerne tout ce qui est les fausses perspectives, Escher. Escher qui a dessiné ce ruban de Möbius, et c'est ce fameux dessin que vous voyez avec ce ruban, avec les fourmis qui parcourent le ruban, hein. Et là, c'est plus un ruban simple, c'est une toile, une espèce de trame, hein. Mais ça, c'était Escher. Et ce ruban de Möbius, eh bien, on le trouve également dans le sigle que vous avez sur pratiquement tous les emballages du quotidien, hein, dans le truc recyclé. Hein, si vous regardez bien l'espèce de triangle recyclé, bien c'est un ruban de Möbius. Et si vous regardez bien aussi le logo actuel des véhicules de marque Renault, Eh bien, c'était carrément un ruban de Mimus.
Si, 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 regarde bien. C'est un ruban qui ne,
c'est un losange, c'est un losange, mais inversé, hein. Regardez bien, quoi. Bon, bah, pour, que vous ayez un petit peu l'idée de toute l'influence qu'il y a eu, hein, sur, surtout sur la partie visuelle, on va dire, sur la partie graphique.
Tu vois. En fait. Ah, en préparant l'émission, tu m'aurais dit qu'on ferait une émission sur ce Mimus et que je saurais l'origine du logo de Renault. J'aurais pas cru.
Ouais, mais enfin bon, c'était alors parce que il y a eu d'autres logos, hein, pour il y a toujours eu cette histoire de losange, mais enfin le losange a varié, hein. Et tu m'as coupé, je sais plus ce que
j'ai. Excuse-moi. Pardon.
Le dernier truc à propos de Mobius. Non, tu m'as coupé là.
Ah, désolé.
C'est pas grave.
Allez, un petit un autre extrait de la BO de Heavy Metal peut-être.
Ouais, avec Devo calling working in the coal mine, pardon, travailler dans la mine de charbon. Extrait de la bande originale, donc, du dessin animé Omnibus Heavy Metal. D'un autre côté, Moebius, c'est vrai, c'est le pseudo de Jean Giraud, mais ce que l'on oublie aussi, c'est que c'est une marque de fabrique, un creuset de la bande dessinée mondiale, avec vraiment une influence qui est monstrueuse. Mais d'un autre côté, c'est un artiste qui a aussi su valoriser sa plume et son dessin. On a parlé justement des travaux qu'il a fait dans le milieu du cinéma, aussi bien directement, hein, par exemple, sur les Maîtres du Temps, ou indirectement, que ça soit sur Alien, ou Abyss, en fait, je crois que l'un des rares trucs qu'il a fait, c'est le visage, en fait, tu sais, le truc d'eau.
De l'entité,
qui,
oui.
Voilà, sur lequel il a travaillé, là, il l'a fait.
Donc il n'y a pas vraiment de visage, puisqu'il reprend les visages des interlocuteurs, en fait.
Il a su travailler sur les contraintes, c'est ce qu'il a fait que il a réussi à mener à terme, en fait, le travail de Tron, parce qu'il a su travaillé sur les formes archi simples et vraiment minimalistes, qui étaient déjà énormément de travail pour les ordinateurs de l'époque. Je rappelle que Tron, quand même, c'était une époque où les ordinateurs étaient à peu près ce qu'il y a dans vos téléphones, sont jusqu'à 200 fois plus puissants que le plus puissant des ordinateurs qu'ils avaient pour faire Tron. Donc c'était extrêmement lent, et en plus en résolution cinéma, c'était énorme. Je crois que Tron, la moyenne, c'est 14 couches de production, de peinture, de retraitement, de trucage, de matte painting, en plus donc de la 3D des ordinateurs. Donc c'est,
mais moi, pour mes spots, j'ai plus de 14 couches.
Mais oui, mais à l'époque, c'était à la main, mon cher ami. Mais voilà. Et il a su aussi, avec sa première femme, il avait créé une entreprise qui, quand il a émigré aux États-Unis, à Los Angeles, en 84, pour valoriser sa plume. Et l'une des premières valorisations, c'est une histoire courte qu'il a fait pour Citroën. Je crois que c'était pour les 80 ans de la marque au chevron. Ça s'appelait Sur l'étoile. C'est une bande dessinée promotionnelle d'une trentaine de pages qui comptait l'histoire d'un couple, Stel et Athan, deux êtres asexués, ouvriers, qui étaient en charge de transférer en fait un musée de l'automobile, avec donc des voitures Citroën, des tractions avant, des DS. Échoué sur une planète déserte. On est dans l'espace, à une époque absolument à des milliers et des milliers et des milliers d'années d'ici. Et Estelle et Adam, et justement, parce que la planète s'appelle Edena, vous comprenez quel est le mythe fondateur qui est derrière, en vivant dans cette planète, vont découvrir qu'ils ont une sexualité, qu'ils vont commencer à se différencier, ils vont vivre chacun des aventures de leur côté. Stel va s'approcher d'un potopé d'une nation ruche dans lequel le visage découvert est un tabou absolu, et donc doit vivre le visage caché dans un masque difforme, tandis que Athan va devenir la déesse de cette planète. Moebius parle de sexualité et divinité, mais surtout d'instinctothérapie, l'un des thèmes qu'il met bien travailler de ce côté-là. Donc il a réussi, à transformer une bande dessinée promotionnelle au départ, à l'étendre et à en faire une histoire en 5 tomes, je crois, plus un 6e après, par la suite. Moebius, après Jean Giraud, part à Tokyo en 1985 pour participer à la pré-production d'un dessin animé qui va peut-être vous étonner, mais tout simplement, c'est les Japonais ont souhaité faire une adaptation en long métrage de Little Nemo. Little Nemo in Slumberland, qui est quand même un grand classique de la bande dessinée, qui date de 1910.
Oui, qui est cité comme l'une des premières bandes dessinées, en fait.
Tout à fait, fait partie des primitives, mais vraiment dans la forme moderne de bande dessinée, en tout cas. Réalisé par Masami Hata et William Hertz, sur un scénario de Chris Columbus, il va au Japon.
Mon Dieu.
En 84.
Ouais, j'ai eu la même réaction d'horreur que du sport, Chris Columbus.
Ok, mais pas extrêmement fabuleux. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que c'est à ce moment-là que Jean Giraud rencontre un certain nombre d'auteurs de la Kodansha, dont un certain Otomo Katsuhiro, qui vient de commencer Akira. Et Akira, directement, c'est absolument évident, est inspiré de tout le trait de Moebius. Donc on imagine déjà la rencontre, ce que ça a dû être entre celui qui va devenir un maître et celui qui l'est déjà. Et quand Moebius revient en France en 88-89, c'est lui qui va porter le projet d'adapter Akira de chez Glénat. C'est Glénat qui va être convaincu pour l'éditer, qui va être coédité par Libération en 29 fascicules. Ils vont pas aller d'ailleurs jusqu'au bout, c'est un petit peu dommage. Et en même temps, l'adaptation cinématographique traduite en français, Moebius va faire une publicité formidable, et c'est vrai que c'est ce qui a fait que le manga a réussi vraiment à s'implanter en France. C'est en partie par la notoriété de Moebius, même s'il n'est pas le seul artisan, de toute façon, loin de là. Mais en tout cas, c'est lui qui a amené.
Son œuvre a inspiré Otomo non seulement pour le trait, mais aussi pour la thématique, avec cette espèce de renaissance métaphysique à travers l'apocalypse.
Voilà. Blam, 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 blam.
Ah oui, ça, tu fais la musique de... Voilà. du film. Mais oui, oui, c'est vrai que cette espèce de renouveau dans le dans la destruction pour avoir quelque chose de totalement vide presque, avec cette espèce d'explosion blanche ou noire à la fin, c'est vraiment c'est inspiré des BD expérimentales de Moebius, oui, ça c'est sûr.
Avant d'en dire plus, ben bien évidemment, donc les productions de Jean Giraud et de Moebius sont disponibles chez vous libraires. Les films auxquels il a participé sont disponibles en DVD et en VOD en général.
De toute façon, vous inquiétez pas, il y aura des intégrales qui vont arriver.
Oui,
je
oui,
pense.
Oui, oui, oui.
Donc voilà. Moi, j'ai les guettes, puisque bon, moi,
c'est malheureux à dire, mais enfin bon, ça va être c'est du pain. La mort de Giraud, c'est quand même du pain béni pour les éditeurs, quoi.
Ouais, c'est malheureux à dire, mais d'un autre côté, c'est l'occasion pour vous de redécouvrir ce qu'il a fait. Ne pas oublier qu'il influence toujours le cinéma, puisqu'il est question d'une préquelle d'Alien, et de ce que l'on a vu, des images, des designs et tout ça, ben la patte de Moebius.
Oui, c'est le film Prometheus qui marque le retour de Ridley Scott à la science-fiction, hein, qui apparemment est une histoire centrée autour du personnage du géant qui a l'abdomen perforé au début, qui est découvert par John Hurt dans le début d'Alien.
Et ben en tout cas, on retrouve justement toute la patte de Moebius dans les costumes et dans les vaisseaux spatiaux. C'est évident que là-dessus, il y a l'influence y retransparaît. Sans compter tous les hommages que l'on a eu. Il y a Neil Gaiman qui a écrit ceci sur son blog. J'avais 14 ans en voyage scolaire à Paris avec ma classe, et ce magnifique magazine rempli de bandes dessinées m'a ouvert l'esprit sur ce que la BD pouvait être. Surtout les œuvres de Jean Giraud, alias Moebius, qui dessinait à peu près la moitié du magazine dans un style qui me semblait à la fois familier et complètement extraterrestre. Johan Svar a dit tout simplement: nous n'avons plus ni père ni maître, il faut dessiner pour lui rendre hommage, ce que tout le monde a fait. Il y a Boulet qui dans l'après-midi a fait un dessin où il a mélangé à la fois Jean Giraud et Moebius, à la fois Arzak et Blueberry.
Oui, on voit Giraud avec son éternel chapeau noir qui prend des dessins sous le bras dans un carton à dessin, qui va monter sur l'oiseau pour aller voguer vers d'autres planètes.
Voilà, avec derrière toute la foule des auteurs de tous ces personnages
et il a dessiné
dans le style de Moebius.
Oui, et puis on voit, il a même pas besoin de dessiner dans le style de Moebius puisque c'est le style Boulet, et là il va dans les nuages, et puis tu vois les nuages qui fait, c'est vraiment du même si c'est connoté, c'est vraiment du copier-coller par rapport à Moebius, et on voit vraiment toute l'influence graphique.
Et on va bien évidemment parler de tous les dessinateurs qui lui doivent tant et qui lui ont rendu hommage, que ce soit Marvano quand il a dessiné La Guerre Éternelle, Michel Blanc-Dumont qui lui il est extrêmement connu pour les westerns qu'il fait, Georges Bess aussi, Jiro Taniguchi pour lequel Moebius lui a refilé un scénario d'une bande dessinée qu'il travaille depuis 20 ans.
Qui s'appelle Jiro Taniguchi, voilà, qui est directement voilà, c'est le pseudo.
Voilà, sur le clin d'œil, Bourgeon, quand il a fait le cycle de Cyan, il l'a dit lui-même, de toute façon, que son dessin ultra réaliste et tout ça ne vient pas de nulle part, il vient aussi de Jean Giraud, Juan Jiménez, la Casa Metabaron, mais parce que lui, il reprenait la suite de l'Incal, donc tout cela...
C'est un spin-off,
Geoff Darrow qui raconte avoir rencontré Frank Miller dans le bureau de Moebius avant qu'ils fassent leur fameux Hardboiled ensemble, donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc vraiment, il a été à la croisée de trois chemins pour créer justement la bande dessinée moderne telle qu'on l'a actuellement, une bonne partie, et je le répète, je ne connais personne parmi mon entourage avant son essai comme après, mais je veux dire, avant, personne ne disait Jean Giraud, j'aime pas ce qu'il fait, parce que voilà, il a été sur une palette tellement vaste, rien à redire de ce côté-là. Dernière coupure musicale, et je pense qu'on va terminer à 12h25, donc cette partie-là.
Non, pas 12h25.
13h25 sur Radio FMR dans le suppléant week-end. On termine avec Trust, mais c'est la version en anglais.
Oh mince alors.
Enfin, Thomas, tu t'es encore fait avoir. Du sport, excepté toi.
Collector. Non, parce qu'il faut savoir que Trust a toujours mis un point d'honneur à chanter en français. Toute la carrière, hein, bon bah ok, il y a pas de morceau en anglais sur les disques donc comme c'était on va dire la caution française hein, de cette bande, la caution européenne de cette bande originale pour un petit peu rendre hommage bah
ouais parce qu'il y avait surtout des Anglais, la new wave of black heavy metal et les Américains,
des Américains surtout hein, beaucoup d'Américains, quelques Anglais quoi bon bah séparé en deux quoi, c'est-à-dire c'est pas tellement il y a une partie heavy metal bien sûr quoi, mais il y a une partie qui est plus ce qu'on appelle toujours le rock FM américain, Stevie Nicks, Donald Fagen, enfin Don Felder et des gens comme ça quoi, et Trust, bon bah c'était un petit peu le truc européen et tout quoi, et bon il faut bien savoir que ce morceau préfabriqué hein, tiré le morceau préfabriqué qui me semble figure sur le deuxième album de Trust, et Trust enfin Bernie surtout quoi avait dit bon ok quoi, mais ce morceau vous le sortez sur la bande originale et tout quoi, mais bon il faudrait pas qu'il sorte en France et tout pour qu'on garde notre aura de chanteur de métal en français quoi, et bon bah c'est sorti quand même, ça c'est évident quoi, mais bon ils avaient fait un petit peu le forcing pour que ça sorte pas quoi, mais bon bah ils étaient un petit peu plus petits hein, que l'industrie discographique.
Alias Moebius, Jean Giraud était humain, donc Jean Giraud était mortel. Et Jean Giraud nous a quittés donc samedi dernier. Et on tenait à faire un hommage qui ne soit pas larmoyant, mais en tout cas, on ne peut nier l'immense influence qu'il a eu sur les auteurs que l'on apprécie tous les jours dans le supplément week-end.
Et surtout le principal, nous espérons que nous vous avons donné envie de découvrir son œuvre.
Ah oui, parce que
nous ça nous a donné envie et
ça on a vraiment eu envie de les relire, on a vraiment eu envie de retomber sur les bouquins j'ai des Metal Hurlant des années 70 chez moi, donc envie d'aller les chercher dans les cartons pour les relire et tout, parce que voilà c'est vrai que c'est un héritage qu'on a et que Et des fois, on est surpris des gens autour de nous qui pourtant sont fans de films, sont fans de bouquins, de plein de choses, etc. Et qui ne connaissaient pas réellement Jean Giraud.
Ben, Jean Giraud, on a assisté, bon, on va finir là-dessus, à une scène ubuesque à la Japan Expo, où c'était, bien que c'était un grand maître qui avait influencé Otomo, passé totalement inaperçu.
Otomo,
dans les...
Taniguchi, tout.
Oui, mais bon, oui, je parle d'Otomo parce que le public de Japan Expo savent tout ce qui est Otomo, et il passait relativement inaperçu avec son chapeau, dans cette fournaise de juillet, et en fait, il n'était pas du tout accosté. Il était tranquille dans les travées de Japan Expo.
Le farceur.
Alors du sport, poursuivre dans cette veine très très gaie, Jean Giraud n'est pas le seul à avoir disparu ces derniers jours.
Bah ouais, on a également Gérard Rinaldi et Michel Duchossois.
Et Monsieur Schoendoerfer.
Et Monsieur Schoendoerfer, ouais. Alors oui, Monsieur Schoendoerfer.
Il prend les notes. Alors il est où celui-là dans les notes, quoi. Ah, il est là.
Voilà, Schoendoerfer. Alors pas du tout la même chose, hein, de toute façon, quoi. Pierre Schoendoerfer, donc qui est le papa de Frédéric, hein. Oui. Mais qui est le papa également de Ludovic et d'un troisième, qui eux ne sont pas réalisateurs, mais qui sont acteurs. Il est né. En 1928, Schoendoerfer, et il est né dans la même ville que Giscard, à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Alors, il rentre au service cinématographique de l'armée. Il fait l'Indochine, mais en tant que il est pas militaire, hein. Enfin, si, militaire, mais enfin bon, c'est pas lui qui va combattre. Il est là pour filmer, donc. Hein, et donc, il fait l'Indochine. À 24 ans, il est caporal-chef à Dien Bien Phu. Il est fait prisonnier. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, toutes ces pellicules sont confisquées. Et il doit plus ou moins sa vie, hein, il doit plus ou moins le fait d'être épargné par les Vietnamiens, au fait que du côté nord-vietnamien, il y avait un conseiller militaire soviétique qui, par ailleurs, était également un cinéaste. Et qui s'est dit non, bah ok, bon, c'est également un mec qui est cinéaste et tout, bon bah il faut je vais lui filer un coup de main et tout. Donc il a plus ou moins été épargné parce qu'il y a eu cette aide de ce militaire cinéaste soviétique qui chapeautait un petit, de ce conseiller militaire comme on dit maintenant, hein, et a demandé plus ou moins à l'épargner, et il doit plus ou moins sa vie à ça. Ensuite, bah il est journaliste au Maroc et pendant la guerre d'Algérie, et il signe son premier film en 1958, c'est La Passe du Diable, sur un scénario de Joseph Kessel. Ensuite, l'année suivante,
voilà, premier film, scénario de Joseph Kessel.
L'année suivante, il réalise deux adaptations de livres très célèbres de Pierre Loti, Ramun Shaw tout d'abord, et Pêcheur d'Islande ensuite. Hein, Pêcheur d'Islande, c'est quand même un des livres de la bibliothèque verte que tu lis quand t'es tout jeune, quoi, généralement, quoi. Et c'est en 65 qu'arrive, eh bien, la 317e section, donc son hommage rendu, eh bien, à la guerre d'Indochine, hein. Un film qui est pratiquement documentaire, on peut dire, hein, parce que bon, il y a très peu d'action dans ce film. C'est vrai, hein, si vous le regardez, quoi, non, c'est pas du bourfif, c'est pas des gros fights et tout, c'est très lent et tout, hein, c'est l'histoire d'une section dans la jungle et tout, qui va faire des petites rencontres, qui ne sait pas où est l'ennemi, et tout ça, avec déjà, son noyau d'acteur, on va dire, hein, puisqu'on y retrouve déjà un tout jeune Jacques Perrin, un Bruno Kremer qui est le patron de la section d'ailleurs, surtout Jacques Perrin, qu'on va retrouver pratiquement dans tous les autres films de Pierre Schoendoerfer. En 67, il tourne un documentaire sur le Vietnam. Alors là, il part aux États-Unis, hein, et c'est un documentaire qui est commandé par l'armée américaine. Donc il part au Vietnam.
Sachant qu'il a travaillé avec des soviétiques.
Non, mais enfin bon, il n'a pas travaillé avec des soviétiques, hein. Et donc il fait ce documentaire sur le Vietnam qui s'appelle La Section Anderson, et qui obtient l'année suivante, en 68, l'Oscar du meilleur documentaire. Bon, déjà, on se dit c'est pas mal, hein. Il écrit également quelques bouquins, dont Le Crabe Tambour, hein, qu'il va adapter en 76. Le Crabe Tambour, le roman, a obtenu le grand prix du roman de l'Académie française. Bon, ok, d'accord. Okay. Et Le Crabe Tambour, il est réalisé en 77, trois Oscars. meilleur rôle, meilleur acteur pour Jean Rochefort, meilleur second rôle pour Jacques Dufilho et meilleure photo pour Raoul Coutard. Raoul Coutard qui signe déjà la photo de la 317e section. Ça veut dire que bon, le mec était quand même vachement fidèle. Hein. On y retrouve également Jacques Perrin hein, dans Le Crabe Tambour, bien entendu. Et en 82, L'honneur d'un capitaine. Alors là, avec encore Jacques Perrin et Nicole Garcia. Là, ça se passe plus sur le théâtre des opérations, mais ça se passe en France. C'est l'après-guerre. C'est L'honneur d'un capitaine. C'est l'histoire d'un ancien militaire qui a fait la guerre à l'Algérie et qu'on accuse de crime, donc hein, de torture et tout ça, quoi, et qui donc doit laver son honneur. Il signe Dien Bien Phu en 1992. Alors un casting un petit peu plus international avec Jean-François Balmer et Donald Pleasance, vous plaît. Et son dernier film, c'est Un roi sur les nuages en 2004 avec Bruno Kremer, Jacques Dufilho, Claude Rich, Jacques Perrin. C'est toujours les mêmes, quoi. Il y a pas de problème, quoi. Et ça roule toujours. Et bon, il a bien entendu transmis sa passion à son fils, hein, Frédéric Schoendorfer, dont on connaît bien entendu Crime en série.
Il a fait encore scène de crime, agent secret.
Ouais, scène de crime, voilà, c'est ça, quoi.
Il a aussi réalisé des épisodes de la série Braco. Voilà, il est plutôt connu pour son travail dans le polar.
Le travail dans le polar, hein, de toute façon, quoi. Frédéric Schoendorfer, voilà, quoi. Donc Pierre Schoendorfer, c'est quand même un des bons metteurs en scène, un des bons réalisateurs qu'a connu le cinéma français, bien que il ait toujours été mis un petit peu à l'écart parce que son passé militaire, on va dire entre guillemets, faisait de lui quelqu'un qui n'était pas très fréquentable au vu des idées qu'il semblait véhiculer, hein. Donc il y a peut-être eu méprise, on va dire. Enfin, l'homme était le produit de son époque, hein, de toute façon, quoi. Une époque qu'on n'a pas connue, hein, puis que c'était complètement autre chose de toute façon. Donc voilà, hommage aussi à toi, monsieur Pierre Schoendorfer. Et on peut remercier d'ailleurs la chaîne Paris Première qui, le jour même le lendemain de la disparition de Pierre Schoendorfer, a fait une petite programmation sauvage et nous a reprogrammé la 317e section. Film en noir et blanc, hein, qui à l'époque, en 65, on est déjà passé à la couleur depuis un bout de temps, quoi. Mais il avait tenu à faire ce film en noir et blanc. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce film a eu autant de succès d'ailleurs, hein, parce que ça renforçait un petit peu l'aspect documentaire, l'aspect un petit peu clinique, on va dire, documentaire clinique, hein, de cette partie de ce film, la 317e section. Alors, vite fait, ça n'a plus rien à voir avec des morts. Enfin, si, il y en aura quand même. Il y a deux séries inédites qui vont démarrer la semaine prochaine.
Sherlock.
D'abord.
Sherlock.
Saison 2. Oui, mais c'est pas inédit, quoi.
Saison 2, elle est inédite.
Alors, oui, inédite en France. Tout d'abord, une série française avec un premier rôle tenu par une nana qu'on connaît pas du tout. Alors donc c'est ça a l'air sympa, quoi, parce que on se dit filer comme ça un premier rôle de série à quelqu'un qui n'est pas du tout connu, c'est-à-dire la série ne va pas porter sur son nom, sur
tu veux
sa
dire
carrière.
Une série TF1?
Non, c'est sur France 2, hein, ça sera vendredi prochain à 20h35 dans la case polar du vendredi soir de France 2. Ça s'appelle Antigone 34 avec Anne Le Nain dans le rôle principal. C'est une histoire de flic, hein, de toute façon, qui travaille dans un quartier de Montpellier. Ça s'appelle le quartier Antigone, hein, quartier qui a été
un peu notre Mirail.
Oui, le Mirail
rénové, très fortement rénové.
Oui, après. Mais en plus, je crois que c'est le même architecte qui a construit le Mirail.
C'est pas impossible.
À Montpellier, c'est Ricardo Beaufil. Le Mirail, ça a été... Non, c'est pas Beaufil au Mirail, me semble, quoi. Enfin, bref, quoi. Avec Anne, aux côtés d'Anne Le Nain, on a également Claire Borotra, plus connue quand même, et Bruno Todeschini. Pour la petite histoire et tout, et puis pour ceux qui aiment bien regarder les annonces People, il faut savoir qu'Anne Le Nain est la compagne de Muriel Robin. et qu'elle dépote un petit peu vu qu'elle a une bonne pratique des arts martiaux et que donc elle a exécuté toutes ces cascades elle-même. On a également dans la série du jeudi, c'est-à-dire la série du dans la case du jeudi de Arte, c'est-à-dire la case série, eh bien là des séries anglaises, on va passer de nouveau plus dans le nord, mais encore plus au nord que le Danemark, on va en Suède avec un nouveau polar nordique. Là c'est l'adaptation des romans de Åke Edvardsson, les enquêtes du commissaire Winter, avec un commissaire interprété par Magnus Kremer, et un commissaire qui a la particularité, ça se passe à Göteborg donc en Suède, et ce commissaire a la particularité d'être le plus jeune commissaire de Suède à avoir obtenu ce grade, donc et bon bah comme d'habitude hein, c'est l'ambiance polar nordique bien glauque, bien avec bon bah des trucs pas trop ragoûtants hein, c'est quand même du moins 10 minimum si c'est pas moins 12. Et à noter également une série qui avait déjà été diffusée sur Arte me semble-t-il, mais un petit peu comme ça et en deuxième partie de soirée, c'est normal, c'est quand même du assez hard-boiled, c'est de l'historique, ça s'appelle Les Piliers de la Terre et ça
remonte, Ridley Scott, on y retourne.
Ça remonte, c'est une histoire qui se base en Angleterre au 12e siècle sous le règne de Henri I. Et il va falloir régler la succession de ce roi mourant.
Je crois que c'est une série sur un château fictif avec des rivalités ecclésiastiques, il me semble.
Entre autres. Voilà. C'est sur France 3 demain à 20h35. Eh non, il n'y a plus de barre d'avis. C'est,
oh non,
on n'y perd pas au change, hein,
tout cas. Ouais, oui, de regarder ça.
Si tu dis qu'en plus, il y a du Ridley Scott derrière.
Mais c'est Ridley Scott qui est derrière, oui, tout à fait.
Alors, Alison Peel dans le rôle principal avec Matthew McFadden. Avec Rufus Sewell entre autres, on va dire que c'est pas trop du gars du bad
guy. Est-ce que Rufus Sewell, à part Dark City, est-ce qu'il a interprété autre chose que du moyenâgeux, ce type?
Il joue pas dans V comme dans Netta.
Rufus Sewell. Rufus, R-U-F-U-S,
S-E-W-E-2-L. Voilà, donc ça c'est Épinés de la Terre, c'est demain soir sur France 3 et c'est une série donc il va y avoir plusieurs épisodes, je crois qu'il y a deux ou trois épisodes qui vont être diffusés. Trois épisodes même me semble-t-il, justement c'est la remarque que je me faisais en lisant, je disais tiens, France 3 a aussi
sa trilogie du dimanche.
Voilà, c'est ça quoi. Commence aussi également à nous délayer de la série comme ça, tiens, à fond les manettes.
C'est plié en 3 semaines.
Voilà, comme
attends,
ça.
Attends, il a fait autre chose du Moyen-Âge ce monsieur, il a joué dans Eleven's Hour.
Dans la 11e heure,
la série télé. Ah. Qui est en cours de diffusion sur TMC, si je me trompe. C'est le samedi, d'ailleurs. C'est le samedi, c'est ce soir.
Ok, à part ça, démarrage de la saison 9 de NCIS vendredi prochain sur M6.
Déjà ?
Qui est toujours en cours de diffusion aux États-Unis.
La 8,
non, mais c'est pas la première.
C'est tout frais. Hein.
Non, mais c'est pas la première fois, de toute façon. Ils avaient déjà fait ça pour d'autres séries, de toute façon. Quoi. Et même pour NCIS, d'ailleurs, où ils diffusaient en cours de saison américaine, eux, ils commençaient à diffuser le début de la même saison. Il y a également la saison de Mafiosa qui démarque. Sur Canal+, c'est lundi prochain à 20h55.
J'ai beaucoup aimé la dernière bande-annonce. Tu les vois danser à manière Kaira avec le pognon et tout. Tu vois les Corses qui ont 40 ans. Et elle a l'air assez. Elle a l'air pas mal, quoi.
Voilà. Et donc, ta série favorite du moment, Sherlock. Donc, le nouveau Sherlock.
Version multilingue. C'est la seule chaîne publique qui a un canal multilingue. Donc, autant en profiter. Ça vaut le coup. C'est très bon. C'est vraiment très bon.
Oui, enfin bon, il y a des gens qui adhèrent, il y a d'autres gens qui n'adhèrent pas du tout. Faut bien se dire ça. Alors ça ressemble, alors bizarrement, je sais pas si vous avez regardé les deux saisons de Whitechapel la semaine dernière, la saison 1 et la saison 2, ça ressemble un petit peu dans l'esprit, dans le dans la façon de faire, c'est-à-dire prendre une icône du siècle dernier, une icône du crime, une icône du polar, mais le transposer dans le monde moderne. Hein, c'est ce qui a été fait avec Whitechapel, les deux saisons. La première saison, donc, c'était à propos du nouveau Jack l'Éventreur, et la deuxième saison à propos des frères Cray. Les frères Cray qui ont un petit peu, on va dire, fédéré le crime dans les années 60 et qui avaient la main mise sur pratiquement tout, hein, à l'époque où, eh bien, la corruption était pratiquement pas généralisée en Angleterre, mais enfin bon, où beaucoup de flics, beaucoup de juges, même des pères du royaume étaient carrément, eh bien, corrompus, quoi, par ces frères Cray, hein, qui avaient pratiquement instauré une nouvelle peine, une mafia anglaise, si on peut appeler ça comme ça. Et là, bah, c'est pareil, il y a pas mal de références, on va dire, hein, transposées à un mythe classique dans le monde contemporain et tout, quoi. Alors bon, c'est très casse-gueule quand même, hein, mais bon, Sherlock, ça fonctionne à fond les manettes. Bon, bah, Whitechapel, c'est pareil, ça fonctionne à fond les manettes, mais c'est également servi par de super bons acteurs, de toute façon, et par le savoir-faire grand briton. J'en ai assez de me répéter.
Quand vous êtes tous les deux des fans psychopathes.
Oui, mais écoute, il faudrait connaître la qualité de là où elle est.
Ouais, ouais. J'hésite, là, on m'a fait une proposition indécente pour prendre du Canal Sat, mais je vais prendre selon la Bib, je crois. Mais ce privé de joke, oui, c'est un sujet, hein. Allons-y. Duce, je pense qu'on a terminé là.
Bah oui.
Thomas, je pense que si peut-être un truc à dire sur Jean Giraud, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il a fait un 13.
Ah bah oui.
Oui, bon,
oui, oui, c'est vrai, c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même à signaler. Si franchement vous voulez voir un Jean Giraud qui est décomplexé et qui, malgré sa notoriété, ben, n'hésite pas à aller dans une série ultra mainstream. Bah, il y a donc, c'est le numéro 18, je crois, et j'ai oublié le nom.
La version irlandaise.
Oui, la version irlandaise, oui.
13, dont une nouvelle saison est en cours de tournage.
Adaptation télé.
Bien. Oui, oui, je parle de l'adaptation télé, bien sûr. Ouais.
Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était un super week-end exceptionnel. Cette fois-ci, on a eu le temps, par rapport à la semaine dernière, de faire les choses proprement. Eh bien, on voulait pas que ça soit quelque chose basé sur des regrets. Loin de là, je pense que il faut plutôt se contenter de ce qu'a fait le bonhomme. Et ce qu'il a fait, ben, c'est pratiquement tout.
Allez, voilà. Donc, si vous avez loupé le début de l'émission et que vous nous avez chopé en cours de route, donc sachez que c'était une spéciale Moebius, mais pas que. Nous avons d'ailleurs appris d'où venait le pseudo Moebius. On a révisé nos cours de maths. C'était très intéressant. Nous avions également un ancien Bidas décédé, le retour des Suédois, une tête d'affiche toute fraîche, des Kaira Corse et des piliers. Diable, on a abordé tout ça dans cette émission.
Blood and Guts, mais j'ai loupé le début du suppléant week-end. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter cette émission, mais aussi les archives. Réécouter Didier Passamonique raconter une anecdote de lui et de Jean Giraud, ça c'était la semaine dernière, et plein d'autres choses. Lire nos chroniques BD, par exemple Bonne Nuit Poun Poun, que l'on a beaucoup apprécié, ou encore Missy Dominici, ou encore voir un petit peu comment on travaille à la CBD avec l'usage du rapport annuel de Gilles Ratier pour, en guise d'arme. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site web suppléementweekend.fr, c'est le site de l'émission. J'arrête pas de trébucher sur les sifflons, mais qu'est-ce qui m'arrive? Aurais-je avalé un incal? Non, et j'espère que je ne suis pas en train de me changer en lampion. Vous retrouvez-nous la semaine prochaine dans un supplément week-end un petit peu plus normal, j'espère, et un petit peu plus joyeux. Ce sera donc même heure, même fréquence, à midi le samedi sur Radio FMR 89.1 MHz, repris aussi sur l'onde miroir et en podcast et en différé sur le site suppléantweekend.fr. Merci à vous, ciao, bye bye. Ciao l'artiste, merci à tous ceux qui ont bien voulu d'ailleurs nous répondre et tout le reste, et on regrette, on sait qu'on avait plein de copains qui voulaient témoigner, mais en même temps ils sont au salon du livre à Paris, donc ils ont pas pu. Voilà, mais en tout cas on a voulu faire un hommage à notre échelle. Merci, ciao. De suite, c'est du sport.